VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Jean-Pierre Bemba acquitté en appel à la CPI qui l'avait reconnu coupable de crimes commis en Centrafrique. Au Cameroun, au moins 11 morts dans une attaque terroriste dans l'extrême nord du pays. Au Mali, des milliers de personnes dans les rues pour exiger la transparence de la présidentielle de juillet prochain. Au Burundi, Pierre Nkurunziza affirme qu'il ne va pas se représenter en 2020, mais certains restent sceptiques.
Ce n'est pas la première fois qu'il prend sa parole. En 2020, nous verrons la récompense de ce qu'il a dit.
Sommet du G7 avec un gros contentieux commercial avec ses alliés. Donald Trump réclame le retour de la Russie dans le groupe.
La balance commerciale est tellement déficitaire aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe que si les Européens essayent de faire une guerre commerciale contre les États-Unis, les Européens perdront beaucoup plus que les Américains.
Et on verra pourquoi la FIFA a suspendu le président de la Fédération du Ghana dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Oui, donc l'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel devant la Cour pénale internationale. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Anastasie Tudiech.
Pour la majorité des juges de la Chambre d'appel, Jean-Pierre Bemba est acquitté. La Chambre d'appel a estimé que les juges de la première instance ont commis des erreurs qui ont sérieusement entaché leurs conclusions, parmi lesquelles des charges formulées de façon trop large, la non-prise en compte des mesures prises par Jean-Pierre Bemba, le fait qu'il n'y avait aucune indication du nombre des crimes. Monsieur Bemba ne sera cependant pas remis en liberté immédiatement, car il est poursuivi dans une affaire de subornation de témoins. La Chambre d'appel estime de son côté qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en détention. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation pour le Congo, s'est réjoui de la nouvelle via un tweet. Le vrai jeu politique va commencer avec ce grand leader de la scène politique congolaise en liberté, a-t-il écrit.
L'ONG La Voix des Sans-Voix a dénoncé les conditions de la mort du colonel Oscar Mayembe, un officier condamné pour l'assassinat de l'ex-président congolais Laurent Désiré Kabila en 2001. Évacué en urgence fin avril de sa prison vers l'hôpital, Oscar Mayembe y a passé plus d'une semaine sans bénéficier des soins médicaux adéquats, selon l'ONG. Il est décédé le 1er juin. L'ONG dénonce aussi la volonté d'éliminer physiquement quelques 35 autres condamnés, toujours en prison. Au Cameroun, une attaque terroriste a fait 11 morts, 2 blessés dans l'arrondissement de Maroua, dans une province de l'extrême nord. L'attaque est imputée à Boko Haram. Plus de précisions à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Selon le maire de Maroua 2e, Abdoulaye Yerima Bakari, joint au téléphone par VOA Afrique, les combattants de Boko Haram ont fait une incursion vendredi matin dans 3 quartiers de l'arrondissement de Maroua 2e. Durant leur incursion, ils ont égorgé 6 personnes, parmi lesquelles le chef de Magavi. La 7e victime civile, la mère du chef égorgé, a rendu l'âme des suites de crise cardiaque, selon une source médicale de la région. Cet après-midi, les sources de sécurité de la région de l'extrême nord ont annoncé avoir abattu 4 éléments de Boko Haram, blessé 1 et capturé 2 autres, tous ayant pris part à l'attaque meurtrière de ce matin. 5 fusils d'assaut AK-47, des boîtes de chargeurs et quelques munitions volées par les éléments de Boko Haram et appartenant aux forces camerounaises déployées dans cette région ont été récupérés entre les mains de ces assaillants. Le gouverneur de la région de l'extrême nord et son état-major ont effectué une descente sur les lieux ce matin et ont exhorté les populations à plus de vigilance. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Mozambique, des attaques imminentes sont probables dans le nord du pays, selon l'ambassade des États-Unis. Nous conseillons fortement aux citoyens américains se trouvant dans le siège du district de Palma d'envisager de quitter la zone immédiatement, indique l'ambassade sur son site internet. Et au Bénin, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a officiellement pris ses fonctions. Joseph Diogbénou s'est engagé à satisfaire les droits des citoyens, mais la nomination d'un proche proche de la présidence suscite des inquiétudes dans le pays. Au Mali, suite à l'autorisation de la marche pacifique de la Coalition pour l'alternance et le changement, des milliers de personnes ont manifesté. Elles exigent l'organisation transparente de l'élection présidentielle du mois prochain. Des précisions avec Kassim Traoré.
Place de la Liberté. Noun Togo fait partie des premiers marcheurs arrivés sur place. Il prend la température du terrain avant d'aviser les leaders qui peuvent faire mouvement vers le point de départ. Noun Togo, secrétaire à la communication de l'opposition.
Aujourd'hui, l'insécurité devient plus en plus très grave au nord du Mali et au centre du Mali. Plus de 500 écoles fermées avec 2600 morts après la signature de l'accord d'Alger. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de travailler pour qu'on puisse avoir une élection démocratique libre. C'est pour cela que nous profitons de l'occasion pour dire à la Cour constitutionnelle. Ils ne vont pas continuer à annuler les élections pour le plaisir d'annuler.
La Coalition pour l'alternance et les changements dénonce la violation de la nouvelle loi électorale, car dans l'emplacement et la fixation des bureaux de vote, tous les partis politiques devaient être associés. Maître Demba Traoré de l'URD.
Nous avons compris que certains préfets n'étaient pas en train de faire ça, d'observer cette règle. Le ministre a été informé et il a dit à notre grande surprise qu'il n'était pas au courant. Nous sommes dans un état comme ça, les préfets font ce qu'ils veulent, le ministre n'est pas au courant et il faut faire confiance à ce processus. Mais ça, c'est des attitudes à dénoncer. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et ce processus a l'obligation d'être correct, d'être transparent, d'être crédible.
Tout au long de la marche, un important dispositif sécuritaire a été déployé pour encadrer la manifestation, qui d'ailleurs s'est déroulée sans incident. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, à peine ouvert, le procès de Jacob Zuma a été reporté au 27 juillet. L'ancien président est poursuivi pour une affaire de corruption qui remonte à plus de 20 ans, mais la prise en charge de ses frais d'avocat par l'État est au cœur de ce nouveau report. Selon le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, les frais d'avocat remboursés par l'État se montent à plus d'1 million d'euros. Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions à 6 dirigeants de réseaux de traite des êtres humains opérant en Libye. Hermias Germay, qui figure parmi les 6 hommes sanctionnés, les Nations Unies indiquent qu'il est l'un des plus importants acteurs subsahariens impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Les sanctions, qui incluent une interdiction totale de voyager et un gel des avoirs, sont le résultat d'une proposition néerlandaise soutenue par la communauté internationale. Et l'ONU a averti qu'un 500 000 d'enfants sévèrement malnutris autour du lac Tchad ont besoin d'une aide vitale, soulignant que le financement des besoins humanitaires est loin d'être suffisant. En effet, moins d'un tiers des 1,5 milliard de dollars nécessaires pour cette année ont été reçus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et le président Donald Trump a appelé ses homologues du G7 à envisager la réintégration de la Russie dans cette instance. Le sommet se tient au Canada sur fond de tensions avec les nouvelles taxes américaines sur l'acier et sur l'aluminium. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie, a déclaré Donald Trump. Le président américain a fait savoir qu'il avait hâte de remettre à plat les accords commerciaux avec les pays du G7. L'atmosphère s'est envenimée ces deux derniers jours. Donald Trump a répliqué aux critiques du premier ministre canadien Justin Trudeau et du président Emmanuel Macron. Il a ironisé en demandant au premier ministre Trudeau et au président Macron d'imposer aux États-Unis des taxes massives et de créer des barrières non tarifaires. Les quatre Européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte, se sont réunis avant le début du sommet pour examiner les menaces américaines de guerre commerciale. L'objectif, selon le président français, n'est plus de convaincre M. Trump de revenir sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Ottawa dit croire toujours possible d'élaborer un consensus sur la pollution plastique des océans, l'éducation des filles et la lutte contre les ingérences étrangères dans les processus démocratiques. Mais c'est le commerce qui sera au centre des débats.
Et nous reviendrons sur les enjeux commerciaux de ce sommet du G7 dans la partie magazine. En Autriche, le chancelier Sébastien Kurz a annoncé que son pays allait expulser plusieurs imams financés par l'étranger et fermer 7 mosquées afin de lutter contre l'islam politique. Selon le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan, cette fermeture est le résultat de la vague populiste islamophobe raciste et discriminatoire dans ce pays. Et en Syrie, des djihadistes du groupe État islamique ont repris une partie de la ville de Boukamal dans l'Est en menant 10 attaques suicides qui ont tué 25 membres des forces pro-gouvernementales. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats se poursuivent dans le centre-ville. L'Iran veut que le maintien de l'accord sur le nucléaire soit confirmé le plus tôt possible et ne peut pas attendre indéfiniment. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente iranienne. Elle a confirmé que des travaux préparatoires à la reprise de l'enrichissement de l'uranium étaient en cours au cas où l'accord deviendrait caduc. Et enfin, le président américain Donald Trump a déclaré aujourd'hui envisager d'accorder une grâce posthume à la légende de la boxe Mohamed Ali, qui avait refusé d'être enrôlé dans l'armée pour se battre au Vietnam. Il s'était vu retirer son titre de champion du monde et avait été condamné pour insoumission. La Cour suprême des États-Unis avait toutefois annulé cette peine en 1971. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Gabon lance son capital investissement avec près de 20 milliards de francs CFA, ce nouvel outil au service des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries a été baptisé Okoumé Capital pour apporter un souffle nouveau aux entreprises locales. Cette structure est placée sous la tutelle du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Elle a pour mission de développer un tissu d'entreprises, accroître les compétences et attirer d'autres investisseurs, soutenir les Gabonais dans la réalisation et l'expansion de leurs projets. Okoumé Capital se fera en 4 segments, le capital risque, le capital développement, le capital transmission et le capital retournement. Au Zimbabwe, la Banque de financement des infrastructures a approuvé 85,7 millions de dollars pour appuyer les projets bancables au cours de l'exercice 2017. Cette institution soutiendra des projets de logement, d'hébergement des étudiants, d'assainissement et de santé municipale et de réhabilitation d'une usine de traitement des déchets.
Et c'est la page sportive. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa.
La FIFA a suspendu le président de la Fédération ghanéenne de football.
Et oui, Kwesi Nyantakyi, soupçonné de corruption, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par le président de la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA. Hier, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football après les révélations explosives d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres. Dans un documentaire, en effet, des journalistes d'investigation démontrent que Kwesi Nyantakyi est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin.
Le marché des transferts, Harry Kane a signé un nouveau contrat avec Tottenham.
Tout à fait, l'international anglais a signé un nouveau contrat de 6 ans avec Tottenham, avec 41 buts, toutes compétitions confondues en club. Harry Kane a réalisé sa meilleure saison avec les Spurs et est terminé deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 30 réalisations derrière Mohamed Salah de Liverpool, 32 buts. Débarrassé des tracasseries du Mercato, l'attaquant de 24 ans pourra entamer sereinement la Coupe du Monde avec l'équipe des Trois Lions dont il a été nommé capitaine.
Et en Italie, David Astori serait mort d'une accélération du cœur. Triste nouvelle.
Oui, triste nouvelle, Raissa. Le défenseur italien de la Fiorentina, décédé à la veille d'un match au mois de mars, serait mort à cause d'une accélération anormale du rythme cardiaque, d'après un écrit du quotidien italien Corriere della Sera, citant le rapport d'autopsie. David Astori est décédé à 31 ans dans la nuit du 3 au 4 mars dans une chambre d'hôtel d'Udine où la Fiorentina devait disputer un match de championnat. Les experts chargés des examens sur le corps d'Astori ont déposé cette semaine leur conclusion au parquet d'Udine.
Et Nadal Thiem, ce sera l'affiche de la finale de Roland-Garros en tennis.
C'était pas ce qui était attendu, mais c'est ce qui est là. Dominique Thiem a été le premier finaliste à 24 ans. Thiem disputera dimanche sa plus grosse finale. Après deux demi-finales de rang en 2016 et 2017, l'Autrichien a franchi le cap et retrouvera donc Rafael Nadal pour disputer le titre de Roland-Garros. L'Espagnol, le roi de la terre battue, a en effet sorti l'Argentin Juan Martín del Potro en demi-finale.
Ben c'est super, merci beaucoup Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Raissa Girondin, toujours avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. On en parlait un peu plus tôt, l'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel devant la Cour pénale internationale. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. Les réactions à Kinshasa avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre radio partenaire.
C'est l'ambiance qui a régné au siège du mouvement de libération du Congo à l'annonce de l'acquittement du président du parti Jean-Pierre Bemba Gombo. Les militants ont pris d'assaut le siège du parti dans la commune de la Gombe au rythme des chants et danses en l'honneur de leur leader. Valentin Guerengo est député national élu MLC.
J'ai suivi ces dossiers, j'ai effectué des voyages, j'ai fait une mémoire sur ça, j'ai écrit un livre. C'est un dossier qui me tenait à cœur. J'ai suivi pas à pas. Aujourd'hui, je dois vous dire que je suis le plus heureux. Jean-Pierre Bemba n'est pas libéré, mais il est acquitté.
Comme lui, ses militants restaient fidèles au mouvement de libération du Congo malgré ces 10 longues années passées par leur leader en prison.
Je m'appelle José Apingaka. Sentiment de joie, de satisfaction, d'action de grâce à Dieu. Comme on dit toujours, avec Dieu nous vaincrons. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'emprisonnement. Il y a aussi un temps pour la libération. Le temps de la libération a sonné.
Je m'appelle Monsieur Papimbo. Pour nous, c'est la joie parce que Jean-Pierre Bemba est dehors.
Jamais enterrer quelqu'un avant la décision de Dieu, a réagi pour sa part l'opposant Vital Kamerhe, pour qui le vrai jeu politique va commencer avec ce grand leader de la scène politique congolaise en liberté.
Il ne faut jamais souhaiter le malheur des autres. Là, il s'agit d'un frère que je connais très bien, qui a souffert, et il sait très bien combien et comment nous avons organisé son départ en exil avec Mme Eve Bazaïba. Aujourd'hui, je suis un homme très heureux parce que je n'aime pas l'injustice sous toutes ses formes.
Sur son compte Twitter, Moïse Katumbi a pour sa part félicité son compatriote Jean-Pierre Bemba en ajoutant, je cite, « Son acquittement montre que la vérité finit toujours par triompher. À ceux qui utilisent encore des faux procès, cette décision marque le début d'une nouvelle ère de justice pour la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Une folle ambiance a envahi les rues de Kinshasa. Des célébrations, des klaxons des véhicules et des motos ont duré plusieurs minutes après l'annonce de l'acquittement de l'ancien vice-président de la RDC, challenger du président Kabila en 2006, dont les Kinois attendent désormais le retour à Kinshasa.
Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Et c'était la surprise au Burundi, hein, au sein de la classe politique et même au sein de la population à Bujumbura, après l'annonce fracassante faite par Pierre Nkurunziza de ne plus briguer un autre mandat. Alors que l'opposition ne croit pas à cette annonce, certains Burundais voudraient lui donner le bénéfice du doute jusqu'en 2020. Notre correspondant à Bujumbura a tendu le micro à certains.
Au lendemain de la déclaration du président Pierre Nkurunziza qu'il ne va plus briguer un autre mandat en 2020 et qu'il soutiendra de toute son énergie et de toute son intelligence le prochain président qui sera élu, certains Burundais de la capitale Bujumbura ont des avis partagés. Les sceptiques sont nombreux.
Qu'est-ce qui l'a poussé réellement à ne pas briguer ce mandat, alors que, vu ce qui s'est passé pendant ce troisième mandat, cela m'amène à bien des questions que je peux me poser personnellement, mais attendons voir.
Monsieur Nkurunziza, même en 2015, il a prononcé un discours qu'il quittera le pouvoir. Il n'a pas quitté le pouvoir. Ce n'est pas la première fois. En 2020, nous verrons la récompense de ce qu'il a dit.
L'opposition intérieure et celle en exil ne croient pas à la promesse inattendue du président Pierre Nkurunziza. Pour ses opposants, le président burundais veut distraire la communauté internationale et le peuple burundais pour que le moment venu en 2020, il revienne à sa présidence à vie, la nouvelle constitution pouvant lui permettre de diriger le pays jusqu'en 2034. Mais pour le président du parti UPRONA, Union pour le Progrès National proche du pouvoir, Abel Gachati, l'annonce présidentielle a pris de court les opposants.
C'est un un message qui a coupé courte spéculation à certains politiciens qui ne faisaient que dire que le président de la République a proposé l'amendement de cette constitution pour s'éterniser au pouvoir.
Le journaliste Jean de Dieu Senguiyumva, membre de la société civile, salue le courage du président burundais, même s'il se pose de nombreuses questions.
Est-ce qu'il a été poussé à renoncer à ce mandat? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il s'agirait d'une sorte d'oppression qui proviendrait de son propre parti politique, le CNDD-FDD? Est-ce qu'il se sent finalement incapable de continuer à diriger le pays? Est-ce qu'il est fatigué? On ne sait pas encore la raison qui a poussé le président Pierre Nkurunziza à faire cette annonce, que je salue, parce que ça va contribuer à coup sûr à assainir le climat politique.
Julien Nimubona est politologue qui enseigne à l'Université du Burundi.
La croyance en la parole du chef de l'État, le respect de la parole donnée. Il veut apparaître comme un chef d'État, un homme de Dieu. On accorde crédit à son discours. Deuxième façon d'analyser la chose, c'est un homme de pouvoir, un chef d'État qui est pris dans des contradictions internes à sa famille politique. Enfin, il y a les pressions de l'environnement. Donc l'asphyxie économique dans laquelle nous vivons qui a un impact sur la légitimité interne.
Le président burundais avait souligné jeudi que dans la tradition burundaise, un homme se retourne dans son lit mais ne se retourne pas dans sa parole. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et en route pour Singapour, le président Donald Trump s'arrête au Canada pour une confrontation attendue avec ses alliés du G7. L'atmosphère s'est envenimée par les taxes américaines, tout d'abord, sur les importations d'acier et d'aluminium. L'hôte du sommet, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron ont critiqué la décision américaine. Alors, que peuvent faire les Européens et Canadiens face aux États-Unis? Idriss Fall a joint Jean-François Seznec, professeur d'économie à l'université Georgetown.
Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent bien sûr se plaindre très fort, ils peuvent crier beaucoup, mais ils peuvent critiquer le président américain très très violemment, mais à la limite, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La balance commerciale est tellement déficitaire aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe que si vraiment les Européens essayent de faire une guerre commerciale contre les États-Unis, les Européens perdront beaucoup plus que les Américains. Les taxes qu'ils mettent sur les importations américaines en Europe font du mal aux États-Unis. À ce moment-là, tout d'un coup, Trump se mettra à mettre des taxes importantes, comme ils ont commencé à étudier la chose. Sur les importations de voitures allemandes, par exemple, la plus grosse cause de déficit commercial des États-Unis. Donc, les Européens, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour se battre contre Trump en ce moment.
Donc, le G7, là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des positions de conciliation.
Je ne sais pas vraiment ce que les Européens peuvent offrir à Trump, sauf que peut-être il pourrait limiter, parce qu'il y a quand même beaucoup de barrières mises par les Européens sur les produits agricoles pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec les fermiers français, allemands, etc. Et donc il pourrait y avoir une négociation là-dessus. Le problème, c'est que du côté européen, les familles, etc., ne veulent pas souffrir du fait qu'ils sont en concurrence avec les produits américains.
Mais est-ce que l'Europe pourra parler d'une seule et même voix? Parce que les intérêts allemands et français sont parfois divergents quand même.
C'est toujours un problème. Est-ce que la France et l'Allemagne essayent de travailler ensemble en ce moment autant que possible, mais il y a quand même beaucoup d'intérêts divergents. Donc les Américains peuvent relativement facilement travailler avec un pays mais pas avec l'autre et casser le front européen contre les Américains. Ça, c'est relativement facile à mon avis.
Il y a un autre contentieux, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. L'administration Trump menace de sanctions quiconque fera des affaires avec Téhéran.
À nouveau, les Européens qui essayaient de mettre en place des systèmes qui pourraient compenser les compagnies européennes qui font des affaires en Iran. Les grosses compagnies européennes ont déjà décidé, ils ne peuvent rien faire en Iran et ils vont travailler uniquement avec les États-Unis. Peugeot PSA, hein, la grande compagnie française de voitures, a déjà annoncé qu'ils allaient sortir de l'Iran. Total l'a déjà fait. Donc les Européens, de la même façon, n'ont aucune chance de vraiment faire un front contre les États-Unis et essayer de défendre l'Iran contre les États-Unis. Vraiment aucune chance que les Européens gagnent là-dessus.
C'était Jean-François Seznec, le professeur d'économie à l'université Georgetown.
Salut les amis, ici Roger Montiou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Yeah, faut des barreaux.
It's Tigmaters.
Et Carlo, il est d'une allée. Suba conti silangala, suno ina ilo ina. Ile nini? Eh, ala kalumbe kantelon.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cheikh Thiaro à la mise en onde, de Cedric Franklin à la console. Raïssa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook, sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Au moins 16 personnes ont été tuées dans l'attaque du 1er mai à Notre-Dame de Fatima, église catholique de la capitale centrafricaine, Bangui. Elle était le fait d'un groupe criminel dénommé Force, opérant dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Le curé de la paroisse, le père Tunguma Lebaba, figurait parmi les morts. Une violente foule a ensuite attaqué une mosquée à La Kunga, dans la banlieue de Bangui. L'ambassade américaine en République centrafricaine a publié une déclaration exprimant l'horreur et la tristesse au sujet de l'attaque insensée de l'église de Fatima et des représailles subséquentes contre la mosquée de La Kunga. Nous pleurons les décès, de même que les cas de blessures résultant de cet acte criminel, a fait savoir l'ambassade. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles. Les individus à l'origine de cet acte sont des lâches. Ils ne représentent ni les musulmans ni les chrétiens. Ils ne représentent pas les centrafricains. Ils cherchent seulement à provoquer une sanglante réaction. Les États-Unis exhortent tous les citoyens de la République centrafricaine à ne pas tomber dans le piège de la violence et de la revanche. Cela doit cesser. Les États-Unis condamnent ces actes sans réserve et nous nous tenons aux côtés de tous les centrafricains et prêts de paix. Les États-Unis comprennent tout à fait la profonde colère que ressentent les gens actuellement, mais nous implorons tous les citoyens à renoncer à la violence et à regagner leur demeure pour éviter la poursuite du bain de sang. Ce cycle doit cesser pour le bien des enfants du pays et de tout son peuple.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.